Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Rencontrer le Christ directement est impossible en dehors de la communion et de la médiation de l'Église. Le pape l'a rappelé ce mercredi lors de la dernière audience générale avant la pause estivale. Le Saint-Père poursuivait son cycle de catéchèse sur l'Église. Dans ce magazine, vous entendrez le nouveau grand rabbin de France. Haïm Korsi a été élu dimanche dernier. Le sort de Vincent Lambert est désormais entre les mains de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle s'est déclarée pour le maintien en vie de cet homme tétraplégique en état végétatif, contredisant ainsi l'arrêt du Conseil d'État qui préconisait l'arrêt des soins. Nous reviendrons également sur l'affaire Myriam, cette chrétienne soudanaise condamnée à mort par pendaison qui a été libérée lundi dernier à la faveur d'une mobilisation internationale. Bienvenue dans ce magazine. Personne ne devient chrétien par soi-même. Le pape François l'a rappelé ce mercredi matin lors de l'audience générale place Saint-Pierre, en poursuivant sa catéchèse consacrée à l'Église, un nouveau cycle qu'il avait entamé la semaine dernière. Devant des dizaines de milliers de fidèles, le Saint-Père a indiqué que nous ne sommes pas chrétiens à titre individuel, nous faisons partie d'une grande famille qui est l'Église. Olivier Bonnel.
On ne crée pas de chrétiens en laboratoire, car le chrétien fait partie d'un peuple qui vient de loin et qui s'appelle l'Église. Le pape s'est longuement attardé ce mercredi sur ce que signifie être chrétien. Être chrétien, c'est appartenir à l'Église par laquelle nous entrons dans une alliance qui nous précède, une alliance entre Dieu et les hommes.
Il pensiero va in primo luogo con gratitudine a coloro che ci hanno preceduto.
Nous devons donc être reconnaissants envers tous ceux qui nous ont précédés et accueillis dans l'Église, a-t-il dit. Ils ont vécu la foi et nous l'ont transmise, et sans eux, nous ne connaîtrions pas le Seigneur. Rencontrer le Christ directement est impossible en dehors de la communion et de la médiation de l'Église, a précisé le Saint-Père. Nous ne pouvons grandir comme chrétiens qu'avec et grâce à d'autres personnes, en compagnie desquelles nous cheminons, même si cela est parfois difficile en raison de leurs faiblesses et de leurs limites. C'est par eux que Jésus vient à notre rencontre et se fait reconnaître.
C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale.
Le Saint-Père a alors mis en garde ceux qui déclarent croire en Dieu, en Jésus, mais qui se désintéressent de l'Église en prétextant pouvoir avoir un rapport personnel direct, immédiat avec le Christ, en dehors de la communion et de la médiation de l'Église. Pour le pape, il s'agit de tentations dangereuses et dommageables, de dichotomies absurdes. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer ses frères, a-t-il conclu. On ne peut pas être en communion avec lui sans l'être avec l'Église.
Essere cristiano significa appartenenza alla Chiesa.
Un geste qui démontre l'intérêt avec lequel le pape François suit la situation des franciscains, de l'Immaculée, sa proximité au travail que le commissaire mène au nom de la Congrégation pour la vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. C'est par ces mots que le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le père Federico Lombardi, a défini la rencontre le 10 juin dernier à Sainte-Marthe au Vatican du pape avec tous les séminaristes des franciscains de l'Immaculée et le commissaire pontifical, le père Videnzio Volpi. Le pape, a expliqué le père Lombardi, est tenu informé de tous les pas accomplis. En ce moment, on cherche une maison à Rome où pourraient habiter les frères étudiants de l'Institut qui fréquenteront une université pontificale de Rome pour poursuivre leurs études. L'ordre des franciscains de l'Immaculée connaît des dissensions internes, liées notamment à la célébration de la messe, quasi exclusivement selon l'ancien rite, mais aussi à l'interprétation du Concile Vatican II. Pour calmer les esprits et ramener la sérénité, l'Institut de théologie interne aux franciscains de l'Immaculée a été fermé et les séminaristes doivent désormais étudier dans les facultés de théologie pontificale de Rome. L'autorité d'information financière du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican a officialisé sa coopération bilatérale avec l'Argentine en signant ce mardi un protocole d'accord. Le directeur de l'AIF, René Brulart, fait état de pas importants dans l'expansion du réseau de l'engagement mondial pour combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est ce que l'on peut lire dans un communiqué du Saint-Siège. L'autorité d'information financière du Saint-Siège, qui est devenue membre du groupe Egmont en juillet 2013, a déjà signé des protocoles d'entente avec les unités de renseignement financier de plusieurs pays, dont les États-Unis, la France, l'Australie, la Belgique, l'Allemagne ou encore l'Italie. Une délégation du Saint-Siège est actuellement en visite en Indonésie. Il s'agit du père Miguel Angel Ayuso Guixo, secrétaire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, et du père Marcus Solo, chargé du département islam d'Asie et Pacifique au sein du dicastère. Un déplacement du 22 au 27 juin pour aller à la rencontre de plusieurs évêques, deux membres de la commission pour le dialogue interreligieux et d'autres institutions catholiques engagées dans le dialogue. L'occasion également de rencontrer les dirigeants des principales institutions musulmanes indonésiennes et le conseil des oulémas. Dans un communiqué, le dicastère indique que cette visite dans le plus grand pays musulman au monde a pour objectif de développer le dialogue interreligieux dans le respect et l'amitié, selon les indications du pape François. La situation des chrétiens en Ukraine et en Syrie est au cœur des discussions de la 87e Assemblée de la Réunion des œuvres d'aide aux Églises orientales qui se tient actuellement au Vatican. Les discussions ont débuté lundi dernier et s'achèveront ce jeudi. Lors de la messe célébrée mardi matin, le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, a rappelé la sollicitude du pape François envers les chrétiens d'Orient. Avec lui, a-t-il affirmé, nous renouvelons l'appel pressant pour la paix en Syrie, en Irak et dans tout le Moyen-Orient, tout comme pour l'Ukraine, afin que reviennent partout et au plus vite la concorde et la justice. Les participants à cette assemblée annuelle seront reçus ce jeudi par le pape François à l'issue de leur réunion. À 51 ans, Haïm Korsia, aumônier en chef du culte israélite des armées, est devenu le nouveau grand rabbin de France, succédant ainsi à Gilles Bernheim. L'élection s'est tenue dimanche dernier au cours d'une assemblée générale du consistoire central réunie au Palais des Congrès à Paris. Intellectuel reconnu, homme de dialogue, Haïm Korsia devient ainsi chef d'une communauté de quelque 500 000 personnes, la plus grande communauté juive d'Europe. Ses principaux défis, raviver l'espérance, garantir l'unité d'une communauté juive éprouvée, promouvoir un judaïsme ouvert et apaisé et en dialogue avec les autres religions. On l'écoute.
Il y a besoin de rassurer la communauté juive de France, il y a besoin de recréer l'unité, il y a besoin surtout de relancer l'espérance dans un rêve commun qui s'appelle la France.
Et pourquoi ?
Parce qu'on a tué des juifs en France, parce qu'il y a une situation de sentiment très fort de vulnérabilité et de fragilité et qu'il faut rassurer les juifs de France. Et à travers eux, il faut rassurer la France qui s'inquiète. On a lynché un jeune Rome il y a quelques jours en banlieue parisienne dans une relative indifférence. Et cette violence de la société, qu'on constate dans toute l'Europe d'ailleurs, et quelque chose qui devrait alerter l'ensemble des acteurs de la vie sociale et de la vie politique. Je pense que le principal, c'est de permettre à chacune et à chacun d'espérer encore dans un vivre ensemble assuré, serein, qui ne prête pas toujours à violence et à combat. Et c'est peut-être ça l'espérance du psaume 133, qu'il est bon et agréable que les frères résident ensemble.
Et comment comptez-vous rassurer de façon concrète votre communauté ?
Je crois qu'il faut augmenter la notion d'écoute, la notion de partage. Il faut tisser des liens, des nouveaux liens de solidarité, notamment avec le dialogue interreligieux. Faire en sorte que la religion soit un facteur de rapprochement et jamais de divergence, de séparation. Il ne s'agit pas de penser, de dire la même chose Il s'agit de dire des choses différentes, distinctes, mais ensemble.
Alors justement, vous parlez de dialogue interreligieux. Vous étiez à la conférence des responsables des cultes en France. Quelle est votre vision du dialogue interreligieux ?
Je crois qu'on a à partager une espérance commune. On a aussi à partager des préoccupations communes, sans syncrétisme, mais ensemble. C'est très important, cette idée de partager ensemble ce qui nous fait humains.
Que pensez-vous du pape François ?
C'est un pape qui a parfaitement réussi son début de mission et qui a porté un souffle frais et un souffle de vérité sur son Église.
Alors, je vous cite, on ne peut pas fermer les portes des synagogues, il faut les ouvrir. Cette rhétorique rappelle celle un peu du pape François. Est-ce à dire que vous êtes dans une même dynamique, la dynamique de l'ouverture ?
L'ouverture, c'est la force de ceux qui sont fermes dans ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient. Être capable d'ouvrir, c'est savoir qu'on porte des idées qui peuvent voyager, qui peuvent être partagées. Donc il faut ouvrir les synagogues pour accueillir les déçus, ceux qui ne trouvent pas leur place. C'est la même problématique pour tous les cultes d'ailleurs. On peut pas, c'est plus rassurant de se concentrer sur, je dirais, un noyau dur, ceux qui se voient comme étant les gardiens d'une certaine forme, de leur forme de piété. Mais la force, et c'est la force du modèle consistorial français, c'est d'être ouvert sur tous et de permettre à chacun de trouver sa place dans la synagogue.
Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, au micro de Manuela à Fiji. En France, le cas Vincent Lambert continue de susciter polémiques et émotions. La Cour européenne des droits de l'homme s'est déclarée mardi soir pour le maintien en vie de cet ancien infirmier tétraplégique en état végétatif depuis un accident de la route en 2008. La CEDH suspend ainsi de fait l'arrêt du Conseil d'État rendu quelques heures auparavant et qui préconisait l'arrêt des soins. Anthony Torzek.
Le maintien en vie ou la mort, le sort de Vincent Lambert est désormais suspendu à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Ses parents ont obtenu gain de cause, c'est eux qui avaient porté l'affaire au plan européen après la décision du Conseil d'État français d'autoriser l'arrêt des soins demandé par son épouse Rachel Lambert. La Cour européenne des droits de l'homme doit donc à présent statuer sur la requête des parents. Un examen sur le fond du dossier, elle va notamment chercher à savoir si l'État français a violé ou non la Convention européenne des droits de l'homme et si la législation française est assez précise sur les questions de la fin de vie. Il s'agit des lois Leonetti. Face à ce feuilleton judiciaire, certains s'interrogent justement sur l'efficacité des lois Leonetti. Mais pour le philosophe Jacques Rico, spécialiste de ces questions, la loi ne peut pas tout. L'instrumentalisation de cette affaire serait bien plus néfaste.
N'attendons pas de la loi qu'elle résolve la totalité des situations tragiques de l'existence. Ce serait à ce moment-là une sorte de tyrannie législative qui s'instaurerait et rien ne serait plus dangereux. La loi Leonetti, comme l'a dit le Conseil d'État, permet de prendre une position et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Il a fait cette prise de position en fonction de l'état actuel de la loi Leonetti et nul besoin d'instrumentaliser cette tragique affaire. L'émotion n'excuse pas tout. La loi ne peut pas tout non plus.
La Cour européenne des droits de l'homme devrait statuer dans un délai de 3 à 6 mois. La vie de Vincent Lambert en dépend. Anthony Torzek pour Radio Vatican.
Après la décision du Conseil d'État français d'interrompre l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert, la Fondation Le Jeune a publié un communiqué intitulé « L'euthanasie pour tous ». Elle précise dans ce texte que Vincent Lambert n'est pas en fin de vie, il vit. La société n'a que le devoir de l'aider, lui et sa famille, pas de le condamner arbitrairement parce que sa vie ne mériterait pas d'être vécue. Le médecin français Nicolas Bonnemaison, poursuivi pour avoir abrégé la vie de 7 malades en phase terminale, a été acquitté ce mercredi de l'ensemble des faits par la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à Pau. L'avocat général avait réclamé mardi une peine de 5 ans de prison avec sursis, sans interdiction d'exercice de la médecine, tandis que les avocats du docteur Bonnemaison avaient demandé son acquittement. Retour à présent sur une affaire qui est toujours à la une, l'affaire Meriam Yahia Ibrahim Ishag, cette chrétienne soudanaise condamnée à la pendaison pour apostasie. Elle a été libérée lundi après l'annulation de sa condamnation par la cour d'appel soudanaise, puis arrêtée à l'aéroport de Khartoum, la capitale soudanaise. À la mi-journée ce mercredi, son avocat indiquait qu'elle n'était pas en état d'arrestation, mais interrogée dans un poste de police sur l'authenticité d'un document de voyage délivré par le Soudan du Sud. Elle se trouvait en compagnie de son mari, qui a la double nationalité américaine et sud-soudanaise, et de ses deux enfants. Meriam bénéficie du soutien de gouvernements occidentaux, d'organisations de défense des droits de l'homme et de responsables religieux qui se sont mobilisés pour obtenir sa libération. Pour Marc Fromager, directeur de l'aide à l'Église en détresse, c'est précisément l'ampleur de cette mobilisation qui a fait la différence.
Il n'y avait pas eu autant de mobilisation si son cas n'avait pas fait autant de bruit, eh bien elle croupirait encore en prison ou elle serait donc appelée à être pendue d'ici les deux prochaines années, puisque dans le jugement il avait été établi que elle pouvait quand même allaiter son enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc elle allait vivre en prison, enferrée, avec comme horizon cette pendaison qui lui était promise.
Qu'est-ce que ça nous apprend par rapport aux différents cas qu'il peut y avoir ?
Moi, j'ai immédiatement fait un parallèle avec d'autres cas dans le monde, et peut-être une des personnes les plus connues, c'est Asia Bibi au Pakistan, donc cette chrétienne qui a été accusée de blasphème, donc d'avoir dit du mal du Coran ou de Mahomet, et qui est donc en prison maintenant depuis bien un certain nombre d'années. Dans un premier temps, la mobilisation internationale et au départ de l'Église catholique a fait qu'elle a sans doute échappé dans les médias à une sentence de mort assez rapide. Dans un second temps, par contre, il est apparu que cette mobilisation très importante en avait fait une icône et que du coup, en fait, sa libération devenait beaucoup plus compliquée. Du coup, à partir de ce moment-là, en nous basant sur l'expérience de l'Église au Pakistan, et notamment de la commission Justice et Paix qui suit très précisément et de très près ce genre de dossier, ils nous ont expliqué qu'il valait mieux, à un moment donné, en parler moins et espérer que son cas serait « oublié » entre guillemets dans le pays, et cela faciliterait sa libération. Donc il y a toujours un moment où il faut se mobiliser, et encore une fois, sur le cas de Mariam, il est clair que c'est ça qui a permis sa libération. Et d'un autre côté, lorsque ça dure, il y a un moment donné où il faut aussi savoir peut-être ne plus trop en faire, et en espérant que, du coup, on puisse trouver une solution plus discrète pour la libération de la personne.
Et donc, concernant donc cette affaire avec Mariam, on peut dire que c'est encourageant concernant le respect de la liberté religieuse.
Officiellement, la liberté religieuse est inscrite dans la constitution soudanaise. Bon, malheureusement, on s'aperçoit que dans beaucoup de pays, elle a beau être inscrite, elle n'est pas respectée. Dans le cas de Mariam, on s'aperçoit que cette mobilisation a permis à Mariam d'être libérée. Donc ça, c'est plutôt positif. Cela est un signal adressé à la fois au gouvernement du Soudan, mais également à d'autres pays, sur le fait que aujourd'hui, et espérons-le de plus en plus, on ne pourra pas faire n'importe quoi avec les citoyens de son propre pays, et qu'on devra être un petit peu attentif lorsqu'il s'agira de violer cette fameuse liberté religieuse. Quoi qu'il en soit, c'est quand même positif, même si c'est un premier pas. Espérons qu'il y en aura d'autres pour d'autres cas similaires, et espérons que cela aura un effet sur toute la population du Soudan, où je rappelle que, notamment au nord, il reste des chrétiens qui sont soumis à un statut discriminant pour lesquels il est quand même très difficile aujourd'hui de survivre. L'idéal, ce serait quand même que la situation évolue pour que les personnes soient simplement davantage respectées et qu'elles puissent bénéficier de cette fameuse liberté religieuse qui est considérée pour nous catholiques comme un droit élémentaire, mais pas seulement pour nous. Dans le droit international, c'est considéré comme un des droits de l'homme les plus fondamentaux.
Interrogé par Audrey Radondi, Marc Fromager, directeur de l'aide à l'Église en détresse, un témoignage à retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. C'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci de l'avoir suivi.